c'est parce que Radio Capé unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Bien, nous parlons à présent du cancer, comment prévenir le cancer du sein et du col de l'utérus. Vous savez, le cancer du sein et celui du col sont les deux types de cancers les plus courants chez la femme. Et selon l'OMS, le cancer du sein compte parmi ceux qui entraînent le plus grand nombre de décès chaque année. Voilà, donc parmi les femmes. Alors, quelle est la meilleure façon de prévenir ces maladies meurtrières? Célestin Kachunga, vous êtes coordonnateur de l'ONG ASICAS, Association internationale de cancer des seins, RDC. La première question est de savoir quel est l'état des lieux, faites-vous, du cancer dans notre pays? Comment se présente le tableau, la situation du cancer de sein, particulièrement au Congo?
Merci beaucoup. Merci pour cette belle question. Et je vais dire une chose. Dans notre pays, jusque là, c'est un peu difficile qu'on vous donne des statistiques fiables à ce qui concerne cette pathologie dans notre pays, parce qu'il n'y a pas de registre du cancer dans des structures sanitaires et il n'y a pas même la politique nationale de lutte contre les cancers. Mais néanmoins, les quelques données statistiques que je peux vous donner, par exemple ici à Kinshasa et du Nord Kivu,
oui.
Et pour par exemple l'hôpital des centres hospitaliers Nganda à Kitambo cimetière, et selon les statistiques, on va vous dire qu'une personne sur trois meurt de suite d'un cancer au niveau de ces structures-là, de cette structure-là. Et au niveau de Goma, parce qu'on a mené des enquêtes, des études, des enquêtes auprès des institutions sanitaires, dans cinq structures sanitaires dans la ville de Goma, oui. Entre autres dans des zones de santé, dont des Karisimbi et des Goma. On a eu à répertorier une affaire en 2011, on a eu à répertorier une affaire de 31% des cancers du sein et 69% des cancers du col de l'utérus. Voilà pourquoi, et voilà ce que je peux dire à ce qui concerne l'état des lieux des cancers dans notre pays.
Et dans les autres provinces, les données, on n'a pas encore des données fiables, comme vous l'avez dit, par rapport à ça. Il n'y a pas encore des statistiques par rapport à cela. Alors, parlons du cancer du sein. On retient, vous avez dit, une personne sur trois meurt.
Oui, ça c'est selon les sources hospitalières de l'hôpital Nganda. Oui.
Et comment les cancers, ces cancers, il y a combien de types de cancers du sein? Comment ça se manifeste chez la femme?
Bon, au fait, vous devez savoir que à ce qui concerne les cancers du sein, tout d'abord, les cancers se développent sous forme de boules au niveau du sein. Et ça, c'est un titre informatif. Ça se développe sous forme de boules. Mais toute boule au niveau de ses seins ou en dessous des aisselles n'est pas synonyme à un cancer. Mais selon les scientifiques, selon les recherches scientifiques, on va vous dire qu'une boule sur cinq peut révéler un cancer du sein. Mmh. Mais à part ça, les cancers se développent aussi au niveau des écoulements, au niveau de... du mamelon, mais tout écoulement au niveau du mamelon, ce n'est pas synonyme aussi à un cancer, mais c'est juste, si vous observez ça, tant qu'il y a une femme, une jeune fille, il faut alarmer, il faut voir votre médecin, parce que le cancer est guérissable s'il est détecté à temps.
Mais le problème, c'est que beaucoup de femmes s'en rendent compte juste après, alors que la maladie a déjà atteint un stade avancé, c'est ça le problème.
Oui, effectivement, c'est par manque de stratégie et de politique et par manque d'informations à notre communauté. Voilà pourquoi nous sommes là dans le cadre de la sensibilisation. Nous sommes en train de... Tout d'abord, nous formons des animateurs communautaires pour aller vers la population, les sortir dans l'ignorance qui les éloigne du dépistage précoce, parce que nous militons plus pour le dépistage précoce. Si dans notre pays, les gens ou les femmes sont informés à ce qui concerne l'importance du dépistage précoce, je ne pense pas qu'on pourra peut-être enregistrer les cas de décès, mais on pourra rester les cas de cancer, mais on aura chaque fois à dépister ça précocement.
Et quels sont les signes? Vous avez parlé d'une boule au niveau du sein. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent renseigner la femme pour qu'elle sache qu'il y a peut-être un danger? Il faut aller vite en consultation.
Oui, je viens de dire il y a d'abord la présence des boules au niveau du sein ou en dessous des aisselles. Et il y a aussi des écoulements autres que les lait maternel.
C'est quel genre de boule? C'est quelque chose de dur
C'est quelque chose là de dur. Ouais. Une tuméfaction, donc c'est au niveau des seins ou au niveau des aisselles.
Oui.
Mais il ne faut pas vraiment, qu'une fois vous avez des boules pareilles, il ne faut pas maintenant conclure que vous avez un cancer.
Oui.
Mais vous devez voir votre médecin. Mais assez souvent, c'est ça l'inconvénient maintenant des cancers du sein, des cancers en général, assez souvent au stade précoce, ça ne fait pas du tout mal, ça masque. Ça commence à faire mal quand c'est au stade avancé. Et voilà pourquoi on l'appelle tumeur maligne. C'est quelque chose qui a l'intelligence. Et quand ça commence à faire mal...
Ça vient en douceur.
Oui, bah, effectivement. Et il ne faut pas oublier que nous sommes en Afrique, on attend que ça fasse mal pour aller consulter. Voilà pourquoi nous sommes là pour les alarmer, les alerter. Une fois, vous remarquez des indurations anormales au niveau de ses seins ou en dessous des aisselles, il faut consulter son médecin pour le dépistage précoce.
Oui. Vous avez parlé, par exemple, tout à l'heure de Goma, où votre ONG fonctionne également. Oui. Dites-nous, comment vous arrivez à faire cette sensibilisation des femmes pour le dépistage?
Oui, et assez concerne le dépistage, assez concerne les cancers du sein, par exemple, nous faisons la promotion de ce qu'on appelle les gestes de l'autopalpation, parce que assez concerne le dépistage des cancers du sein, c'est d'abord à partir de soi-même, on peut s'examiner avant qu'on aille consulter son médecin.
Oui.
Donc, nous faisons la promotion des gestes de l'autopalpation, et ce que nous apprenons aux femmes, ça se fait souvent comment? C'est 4 gestes, il faut chaque fois faire passer les tests et les gestes de l'autopalpation une fois les mois, une semaine après les règles. Si vous êtes une femme ménopausée, vous choisissez une date fixe, vous passez ces gestes. Et ça se fait comment, ces gestes? D'abord, et les conditions, il faut d'abord avoir un miroir chez soi. Et c'est rassurer que vous avez, vous voulez passer ces gestes, vous avez déjà... vous êtes dans votre une semaine après les règles. Et là, qu'est-ce que vous faites? Le premier geste, vous soulevez vous inspectez les seins au niveau de, à travers les miroirs. Vous cherchez des indurations anormales.
D'abord, pourquoi une semaine après les règles?
Oui, pour ne pas faire de confusion. Parce que, vous savez, parmi les symptômes des cancers du sein aussi, il y a aussi des douleurs bénignes, donc les douleurs au niveau de ses seins. Mais les femmes avant une semaine, avant les périodes des règles, les seins doivent faire mal. Mais si du moins vous pratiquez ces gestes avant la date là que je suis en train de vous dire là, vous allez entrer dans des confusions.
Mm-hmm.
Voilà pourquoi il est recommandé de passer ces gestes de l'autopalpation une semaine après les règles, ou si vous êtes ménopausée, vous choisissez une date fixe. Là, vous allez passer ces gestes. Donc, j'ai dit ceci, les premiers gestes. Et debout devant un miroir, vous inspectez vos seins s'il n'y a pas des indurations anormales. Mais il ne faut pas oublier que les seins ne sont pas de même grandeur. Il y a toujours un sein qui est plus volumineux que l'autre. Et là, à travers le miroir, vous cherchez des indurations anormales. S'il y en a, et s'il n'y en a pas, vous passez. Et second geste, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous soulevez les bras. Vous commencez à palper vos seins en faisant des petits cercles comme l'aiguille d'une montre. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Vous êtes en train de chercher la boule là que je suis en train de vous dire. Et troisième geste, vous allez aussi en dessous des aisselles parce que le cancer du sein se développe aussi en dessous des aisselles. Et s'il n'y a pas de boule ou de ganglion, vous passez autour du dernier geste et là vous allez pincer les mamelons doucement, passer une partie sensible. Vous pincez, vous regardez s'il n'y a pas des écoulements autres que les lait maternels. S'il y en a, allez consulter votre médecin. C'est ce que nous apprenons en quelque sorte les femmes, et ça concerne le dépistage des cancers du sein.
Bien. Comment prévenir le cancer du sein du col de l'utérus? Célestin Kachunga, coordonnateur de l'ONG ASICAS, Association internationale des cancers du sein RDC, est l'invité d'Okapi Service. Des questions et préoccupations, appelez-nous au 081 890 63 94.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Jean Calvin Yoka nous appelle de Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Jean, bonjour.
Bonjour, Jean Calvin.
Je Bien, quelle est votre question?
Oui, oui, dès la présentation de notre invité, j'aimerais lui demander qu'il puisse nous dire la présentation du cancer de l'utérus. Et quel remède ou quel conseil il peut donner à des filles qui avortent souvent ici au Qatar aussi?
Bien, merci. Quel conseil à donner aux filles qui avortent souvent? Merveille Luandi nous appelle des Guéména. Nous invitons également les femmes qui nous écoutent à ce moment. Les femmes qui nous écoutent à travers la République, appelez-nous pour participer à cette émission au 081-890-63-94. Merveille, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Guéména. Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation, d'abord, je vais épingler le premier sujet qui est intitulé l'avortement d'abord. Je vois, d'abord, je vous remercie pour avoir nous accueillis. C'est un très bon sujet qui cadre d'abord à nos études secondaires. Parce que nous faisons la section scientifique. Selon la biologie, on dit même que habitué à avoir tout ça, à commettre des actions au fur et à mesure, à la longue de sa vie, il sera ou soit stérile, ou soit elle perdra d'autres opportunités de sa vie. Alors, pour
alors, désolé, Merveille, la ligne se détériore de plus en plus, on n'arrive plus à vous écouter correctement. Désolé, essayez de nous rappeler plus tard. Kapi Kasereka est à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Je voudrais saluer les auditeurs de la paix et ma question, je voudrais demander à l'invité, en fait, qu'est-ce qui serait la cause du cancer de l'utérus chez les femmes?
Voilà, cause cancer de l'utérus chez la femme. Célestin Kachunga. Alors, la première question, c'est celle de Jean Calvin de Kananga qui parle du cancer de l'utérus. Il vous dit quel conseil vous pouvez donner aux filles qui avortent dans cette province du Katanga, du Kasaï occidental.
Oui, ce que je peux dire à notre auditeur Calvin, Jacques Calvin, tout d'abord, demander aux auditeurs de garder peut-être, de nous aider à garder nos sujets du jour, hein, parce que aujourd'hui nous sommes là pour parler de la prévention des cancers gynécologiques et entre autres les cancers du sein, les cancers du col de l'utérus. Pour peut-être à sa deuxième question qui me préoccupe là,
les causes du cancer de l'utérus.
Oui. Vous devez savoir à ce qui concerne les causes des cancers de l'utérus. Tout d'abord, les cancers de l'utérus est dû au rapport sexuel. Et le cancer du col de l'utérus est transmis par un virus qu'on appelle le papillomavirus. Et tout ça, parce que dans les pays développés, on va vous dire que le cancer du col de l'utérus est propre aux femmes villageoises. Si peut-être je peux appuyer par ce que je viens de dire ici, les facteurs de risque des cancers du col de l'utérus, par exemple, vous allez voir les femmes là où l'hygiène est précaire, multiplier les partenaires, des grossesses nombreuses et rapprochées.
Est-ce que les avortements aussi peuvent...
Bon, selon les recherches, non, les recherches en cours ne montrent pas vraiment que ça peut provoquer, mais je ne suis pas là aussi pour encourager les avortements chez nos femmes ou jeunes filles. Voilà. Oui. Voilà ce que je peux dire à ce qui concerne les causes des cancers du col de l'utérus. Oui.
Bien, des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-6394.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoutes et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capissoir.
Comment prévenir le cancer du sein et du col de l'utérus? Nous avons en ligne Marco Mumbere, il nous appelle de Butembo, au Nord Kivu. Bonjour Marco.
Oui, bonjour.
Oui, en vous écoutant.
Nous vous félicitons pour votre service combien louable que vous rendrez au peuple congolais. Félicitations aussi pour le sujet du jour. La question que nous voudrions poser juste à l'invité sur le plateau est de savoir si l'Association internationale pour le cancer ne va pas s'étendre partout sur l'étendue de la RDC.
Ouais, vous dites qu'est-ce qui va s'étendre?
L'association ça ne va pas s'étendre puisque nous a présenté que l'association est opérationnelle à Kinshasa et à Ville de Goma. Est-ce qu'on ne va pas aller dans le reste des provinces à l'RDC?
Bien, merci. Nos invités vont répondre tout à l'heure. Ogi Bendelo, vous êtes à Kikuit dans le Bandundu. Bonjour.
Bonjour Jody, je salue aussi notre invité, Célestin Kachunga, y compris tous les auditeurs de la fréquence de la m'avoir
voilà.
La parole.
Bien, j'annonce aussi l'arrivée de Dr. Sulu Maseba Mweng. Il est le président de la Ligue nationale contre le cancer. Bonjour docteur.
Bonjour.
Bienvenue. Merci. Alors, Ogi, on vous écoute.
Merci Jody. Notre invité avait déjà répondu à la première préoccupation qui était de savoir quelles sont les causes du cancer. Moi aussi, j'ai voulu demander, le cancer... ce sont seulement les femmes qui en sont victimes ou bien les hommes aussi. Et d'aider la personne de tout âge peut être victime de cette maladie ou c'est indiqué seulement à un certain âge. Et puis de plus, est-ce que l'excès d'utilisation des produits à l'hydroquinone peut provoquer les cancers selon l'hypothèse de certaines personnes? Et pour terminer, monsieur Jeudi...
Pardon, Ogi, quel genre de produits?
L'excès d'utilisation des produits à hydroquinone peut-il provoquer du cancer? Selon ce que disent plusieurs personnes. Et pour terminer, je voulais demander à notre invité de me préciser le cancer peut être guéri ou pas, car plusieurs personnes disent que c'est comme de l'asthme, c'est-à-dire que ça ne peut être guéri complètement. Voilà mes préoccupations, monsieur Jody.
Merci. Bien, merci, bonne journée. Modeste Mwamba, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour Jody Nkachama, bonjour aux auditeurs de Radio Kapien, ainsi qu'à l'invité.
On vous écoute.
En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Je voudrais te poser mes quatre questions à l'invité.
Quatre questions.
Il me parle un peu de l'étiologie, la symptomatologie et la thérapeutique ou de la thérapie, je veux dire, du cancer des mamelles ou du cancer. Il a parlé un peu du cancer utérin et de l'autre cancer là. Donc en dehors du cancer utérin, qu'il puisse me parler de l'étiologie, de la symptomatologie, de la thérapie pour l'autre cancer ou cancer de mamelle. Alors en dehors de cette question, je voudrais un peu qu'il me parle, en dehors de ces deux sortes qu'il a évoquées dans cette émission, il y a-t-il d'autres cancers ou c'est seulement le désir dont il nous a parlé? Alors la troisième question, c'est que l'usage des aphrodisiaques chez les filles peut aussi causer du cancer. C'est ça aussi la question que je voudrais un peu, ou les questions que je voudrais un peu poser. Merci beaucoup.
Bien, merci Modeste Mwamba, docteur Sulu et le président de la Ligue nationale contre le cancer. Vous avez suivi la question de Marco Mumbere de Butembo qui veut savoir est-ce que il parlait de l'ONG ACICAS, est-ce que vous allez vous étendre et docteur Sulu est le président de la Ligue nationale contre le cancer. Est-ce que vous comptez étendre, n'est-ce pas, le mouvement, disons, à travers tout le pays? On commence avec Célestin.
Oui, merci beaucoup pour Marco Mumbere. Et je dois lui dire que tout d'abord, comme il est tout près de là où ACICAS, parce que le siège de l'ONG ACICAS, c'est à Beni, c'est à 54 km de chez lui là-bas. Et je pense qu'on a même organisé des conférences avec le docteur Mundama, que j'ai salué en passant des médecins chefs des districts sanitaires. Et avec la vision de la LINAC et de la ACICAS, nous sommes en train de voir comment étendre les projets vers toutes les provinces de la RDC. Mais jusque-là, avec la LINAC et la ACICAS, nous sommes d'abord à Beni, et Goma et Kinshasa.
Alors, docteur Sulu, comment est organisée la Ligue nationale contre les cancers dont vous êtes le président?
Merci pour la question. Merci de me recevoir. La Ligue, elle est nationale. Elle a bien des membres. Pas simplement à Kinshasa. La Ligue, elle a des membres sur toute l'étendue de la République. Et bien sûr, peut-être que c'est parce que nous utilisons le média au Capi, alors qui émet ici au départ de Kinshasa, qui pense que ça se limite à Kinshasa. Heureusement d'ailleurs que Okapi nous permet d'être aussi partout, donc aller partout. La Ligue, elle est nationale, la Ligue, elle s'étend partout, et voilà. Donc, ce que je peux dire.
Bien. Ouais. Alors, Ogi Bendelo de Kikwit vous pose la question de savoir si le cancer concerne seulement les femmes ou bien il y a des hommes aussi qui sont concernés.
C'est très bien la question et je me rends bien compte qu'il y a beaucoup à faire. Parce que je vais donc répondre à cette question. Le cancer est une maladie grave, très grave, dois-je dire. Le cancer, c'est une maladie qui, quand on n'a rien fait, quand on n'a pas reçu les traitements appropriés et quand on les a pas reçus précocement au début de la maladie, donc l'issue est fatale, ça signifie on en meurt. Donc nous sommes en train de parler ici donc d'un problème grave de santé publique. Et le cancer, depuis quelques années, depuis les conférences qui sont tenues à Cape Town, oui, par tous les cancérologues du monde, le cancer aujourd'hui envahit l'Afrique. C'est devenu aujourd'hui une endémie. C'est aujourd'hui on en meurt plus que, disons, quand on voit en termes de morts, quand on prend ensemble les morts dues au sida, dues au paludisme, dues au, du quoi d'autre, à la tuberculose. Quand vous prenez toutes les trois taux de mortalité ensemble, paludisme, sida, malaria, c'est bien moins que, disons, ce qu'entraîne le cancer. Donc, c'est un problème très grave.
Mais entre les hommes et les femmes.
Maintenant, entre les hommes et les femmes.
Oui, le qui sont le plus concernés?
Le cancer n'est choisi ni femme ni homme, d'accord? C'est tous. Tout, le cancer concerne tout le monde concerne, il n'y a pas de différence de sexe. Même si, parce qu'on n'a pas de sein, on va avoir moins de cancer de sein chez l'homme, qui a lui aussi de sein, mais le cancer du sein existe également chez l'homme. Mmh. Bon, donc c'est pour dire que les cancers, donc quand nous parlons des cancers, les cancers concernent tout le monde. Il n'y a ni âge, il n'y a ni race, il n'y a ni sexe. Le cancer concerne donc tout le monde, c'est un problème majeur de santé publique. Donc le cancer concerne tout le monde.
Tout le monde. Voilà. Alors il dit, est-ce que l'hydroquinone, lorsqu'on applique les produits à base d'hydroquinone, est-ce qu'il y a des risques d'attraper le cancer?
Bien sûr que le fait, on ne peut pas. Est-ce qu'il y a de risques? Bien sûr qu'il y a de risques. Il n'y a pas simplement que ces risques-là. Il peut y avoir également des risques, par exemple sur base du rein, sur base. Donc il y a bien de risques. Il faut bien sûr rester naturel. Bon, je ne veux pas donner moi des leçons de morale, mais il y a bel et bien de risques. Je voudrais répondre par l'affirmative.
Alors, il dit, est-ce que le cancer peut être guéri ou pas?
Bon, dois-je dire, et ça c'est important, sinon ASICAS n'existerait pas, sinon les associations de lutte contre le cancer n'existeraient pas, sinon la Ligue nationale contre le cancer, la LINAC, n'existerait pas. Donc, si nous faisons tout ce que nous avons ici, avec aussi Okapi, c'est parce que le cancer peut être guéri. Je dis tout à l'heure que le cancer, on en meurt à 100% si on ne se fait pas guérir, on ne se fait pas soigner, si on ne reçoit pas des soins appropriés et si on ne se prend pas en charge au départ de la maladie. Le cancer est tout à fait possible, on peut en guérir. Moi, je préfère d'ailleurs le dire, moi j'ai souffert d'un cancer il y a 18 ans et j'ai plus rien.
Quel type de cancer?
Moi, j'ai fait ce qu'on appelle le cancer du sang, ce qu'on appelle la leucémie. La leucémie, donc moi j'ai fait une leucémie et voilà que ça fait aujourd'hui 18 ans. Je ne prends aucun médicament contre le cancer parce que le diagnostic a été fait bien précocement et les traitements ont été appropriés et j'ai rien. Donc c'est pour dire que les cancers, on peut bel et bien en guérir. On peut bel et bien en guérir, mais attention, gare aux charlatans. Le charlatanisme tue. Plusieurs personnes ont. Quelle est la véritable, disons, quelle est la véritable cause qui fait que les gens qui ont le cancer meurent? C'est parce que en Afrique, contrairement à l'Europe, en Europe aussi il y a de cancer, mais peu de gens en meurent. Ils en meurent bien sûr, mais chez nous, 80% meurent quand ils ont un cancer. La différence
pourquoi
entre
parce
l'Europe,
que la prise en charge coûte trop cher.
Pas du tout, ce n'est pas ça. La prise en charge du cancer a toujours été coûteuse partout, mais c'est le fait que les malades viennent en retard. Viennent quand le cancer, nous appelons qu'il est au stade 4. Donc au stade où on ne peut plus rien faire. Au stade où nous disons le cancer est au stade dépassé. Donc c'est la découverte tardive du cancer. Et même quand il est découvert à temps, plein de charlatans, plein de médias font encore aujourd'hui, disons, l'apologie, font encore la publicité des personnes qui disent « Ah, moi, je soigne le cancer. »
Mais qui sont ces charlatans, des tradis praticiens, vous voulez dire?
Bah, je ne dis pas que le fait d'être tradit praticien donc, est mauvais, mais il y en a aussi bien plein. Je parle principalement de charlatans, d'accord?
Qui font croire aux gens qu'ils ont...
Qui utilisent des substances non éprouvées, non prouvées,
oui.
Qui utilisent n'importe quoi. Il y a plein de pasteurs, excusez-moi, il y en a des très bons, mais je dois également dénoncer ça. Les personnes qui disent, voilà, moi je vais vous soigner de votre cancer par la prière, c'est vrai. Que les miracles existent, mais je ne pense pas que les miracles doivent être une formule de prise en charge de tout. Voilà. Donc c'est ça. Le temps, on fait passer le temps, on endort le malade, on leur prend de l'argent, d'accord ? On les vide de leur poche.
Alors, docteur Souloussi, je comprends bien, la meilleure façon de soigner le cancer, c'est tout simplement la prévention. La prévention et détection précoce.
La première chose de... bien guérir du cancer, c'est de ne pas l'avoir. Donc, ce n'est pas de se faire exposer aux facteurs de risque. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ne pas avoir le cancer. Donc, c'est pour ça que nos milieux doivent être assainis. Plus, bien sûr, d'autres mesures, si nous avons le temps d'en parler. La première chose, c'est la prévention. Ne pas l'avoir. La deuxième chose, c'est le dépistage. Le dépistage, ça signifie que on va voir, disons, le personnel médical, le médecin ou les personnes, disons, qui ont qualité pour que le cancer soit dépisté précocement, dès qu'il commence. Et en fait, la troisième chose, c'est alors les soins appropriés. Et aujourd'hui, encore, je dois dire que le cancer ne se fait pas prendre en charge par un seul médecin qui dit, moi, je vais vous soigner de votre cancer. Non. Le cancer aujourd'hui se prend en charge par une équipe. Nous appelons ça des équipes multidisciplinaires. Voilà. Donc, chacun ayant quelque chose à faire, celui qui sait opérer, il va opérer. Celui qui sait opérer n'est pas celui qui va faire de la chimiothérapie. Donc, ça va être celui qui fait la chimiothérapie. Celui qui fait la chimiothérapie n'est pas celui qui va faire la radiothérapie.
Donc, on y revient, docteur, le temps d'accueillir encore trois auditeurs.
Bien, merci.
Qui sont en ligne.
Bien,
Tim Bolima nous appelle des bandes de Nouville. Bonjour, Tim.
Bonjour.
Bonjour
à l'invité.
Quelle est votre question, Tim?
En fait, vraiment, je suis tellement content et flatté de l'émission qui vient de se passe maintenant.
Oui.
Vraiment, c'est un sujet très important que vous êtes en train de développer maintenant. En fait, vraiment, il y a une... question qui m'est restée dans la gorge, je vais savoir, en fait, jadis, l'Afrique n'avait pas connu le problème de cancer. Maintenant, si nous examinons la situation actuelle, on se rend compte que le cancer prend de plus en plus de la place. Alors, vraiment, nous voudrions savoir, est-ce que c'est le comportement de l'Africain en adoptant, en fait, l'Asie européenne qui a fait que nous puissions connaître le problème de cancer? Ou je voudrais encore savoir si ce sont des prédispositions, parce que les gens qui souffrent de cancer sont prédisposés génétiquement ou comment? Alors, le deuxième volet de mes questions, en fait, je voudrais savoir quels sont les méfaits en fait, du cancer de sein chez la femme et qu'est-ce qui serait à la base de la malignité du cancer? Et pour terminer, quels sont les comportements que les femmes doivent évidemment adopter pour être à l'abri du cancer. Merci beaucoup, je vous remercie.
Bien, merci. Dakin Ilunga nous appelle de Kolwezi au Katanga. Bonjour.
Oh, bonjour, bonjour Radio Okapi. Bonjour notre cher invité.
On vous écoute.
Ma question était juste de savoir si réellement toute boule se présentant dans les seins était un signe d'un cancer. Parce qu'ici, chez nous, à Kolwezi, nous les voyons plus avec les jeunes filles qui sont en croissance, il y a des boules dans les seins. Et par la suite, il y a même des mamans qui allaitent, mais à un certain temps, ils présentent aussi le même problème. Il y a même certaines personnes qui ont été opérées, on a enlevé, mais malheureusement qu'on n'a pas un centre de dépistage ou un centre pouvant clarifier ou pouvant donner le diagnostic exact, soit disant que c'est un cancer. Maintenant, ma question... si je peux la résumer, je voulais savoir si justement toute boule pouvant être dans les seins était déjà un signe d'un cancer.
Bien, merci. Deuxième question rapidement.
Oui, la dernière question, c'est peut-être, je voulais aussi juste savoir si réellement la manière dont, bon, donc disons, le manger ou la nutrition était aussi partie prenante du développement d'un cancer chez la femme.
Merci, Dakin. Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody Kachama, bonjour à tous les auditeurs.
Alors rapidement, quelle est votre question?
Ma première question était celle de savoir, concernant l'étude phototropique, c'est-à-dire nous avons la réaction face à la lumière et à la chaleur, et à la différente substance dont les femmes souvent utilisent. Quelles peuvent être aussi les conseils qui peuvent être donnés en vue de réserver les seins pour que les seins ne soient pas exposés à des différentes provocations du cancer. La deuxième question est celle de savoir quelle peut être une médication, soit un conseil qui peut être administré à ceux qui utilisent les produits suppositoires tels que les femmes qui utilisent par exemple les ovules pour se protéger contre telle, soit la méthode contraceptive pour qu'il n'y ait pas aussi la conception. Est-ce que cela peut aussi engendrer aussi les cancers du col? Et la dernière préoccupation, c'est de savoir quelle peut être aussi une indication pour les différentes substances caustiques dont on utilise par exemple les femmes pour la... Est-ce que cela peut aussi provoquer le cancer?
Merci. Aloïs Sakaji, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour Monsieur Gère, j'ai trois petites questions à poser à notre invité.
C'est Jody, on vous écoute rapidement.
Oui Monsieur Jody, bon, la première question, en entendre parler l'invité, il a dit qu'il ne dispose pas des statistiques vraiment fiables des femmes qui vivent avec le cancer. Bon, parmi les raisons qu'il a avancées, il a dit qu'il n'a pas de registres qui sont mis en place dans nos institutions sanitaires pour la cause. Et il n'y a pas aussi une politique nationale pour la cause. Bon, alors par rapport aux registres, qui sont censés mettre à la disposition de nos institutions sanitaires ces registres-là et pourquoi ils ne parviennent pas à les mettre?
Oui.
Et aussi, la deuxième question était celle de savoir. Tout compte fait, nous nous rendons compte que bon, le cancer est une maladie mortelle. Alors, de tous ces types de cancers que les invités ont invoqués, lequel est plus dangereux que les autres? Et aussi, chaque type de cancer, en ce qui les concerne, peut amener la personne qui vit avec cette maladie-là pendant combien de temps si il n'est pas donc traité pour que la personne puisse mourir? Merci.
Merci. Alors, pour cette dernière question, Kachunga, qu'est-ce que vous pouvez dire à Loïs?
Oui, la première question, qu'est-ce qu'il a dit?
Vous dites qu'il n'y a pas de registre dans les hôpitaux pour enregistrer les cas des malades, des cancers qui arrivent. Alors, qui est censé récolter toutes ces données, avoir les statistiques au travers dans les hôpitaux?
Oui, au fait, ceux qui sont censés mettre les registres des cancers, tout d'abord, c'est les gouvernements, à travers son ministère de la Santé publique. Et donc, je salue à part ça le ministre actuel, son Excellence le ministre de la Santé, avec l'effort qu'il est en train de mener pour instaurer, mettre sur pied une stratégie nationale qu'on a plaidé depuis longtemps avec la LINAC et la CICAS. Et désormais, la politique nationale de lutte contre le cancer dans notre pays est en cours d'élaboration. Désormais, nous aurons une politique nationale.
Bien.
Mais ceux qui sont censés mettre un registre du cancer, tout d'abord, c'est la tâche du gouvernement à travers son ministère de la Santé.
Oui. Alors, Dakin Ilunga de Kolozi veut savoir, est-ce que toute boule, la présence d'une boule au niveau du sein, signale directement la présence d'un cancer?
Oui, effectivement, je l'ai dit dans mon introduction, j'ai dit que toute boule au niveau de ses seins ou en dessous des aisselles n'est pas synonyme à un cancer. Mais nous sommes là pour les alarmer. Dans les jours à venir, ça peut les créer des problèmes. Si, du moins, les femmes remarquent de telles boules au niveau de ses seins ou en dessous des aisselles, qu'elles consultent son médecin pour des pistes systématiques.
Est-ce que l'utilisation des antitranspirants, par exemple, peut conduire à un cancer?
Oui, selon d'autres sources, on va vous dire que l'usage des antitranspirants à base de chlorure d'aluminium favorise aussi les cancers du sein. Parce que, vous savez, les femmes aiment raser leurs poils en dessous des aisselles. Et quand elles rasent leurs poils, ça laisse de petites blessures. Et quand elles pénètrent les produits là, chimiques en base de chlorure d'aluminium, et selon d'autres sources, ça peut vous créer des problèmes dans les jours à venir.
Alors, docteur Soulou, revenons à cet auditeur de Kananga qui parlait de l'étiologie et de la symptomatologie du cancer des seins.
Merci pour la question. En fait, il veut dire, mais cancer, ça vient d'où? Hein, c'est ce qu'il dit, étiologie. Ça vient d'où? Et quand il dit symptomatologie, il dit, mais ça se manifeste comment? En fait, en termes du cancer du sein, j'ai dit d'abord cancer en général. Il n'y a pas une seule cause, telle que vous dites, si je fais ça, mais j'ai le cancer, si j'évite ça, je n'évite que... Si je n'évite que ça, je n'aurai pas. Non. En termes de cancer, il y a donc une conjonction. Il y a donc plusieurs facteurs. Vous avez votre organisme qui n'arrive plus à se défendre. Donc, l'organisme, vous avez ce que nous appelons des oncogènes, donc des virus, par exemple, qui sont des microbes. Vous avez, par exemple, de l'amiante qui se trouve... Je parle du cancer en général. Mm-hmm. Je vois sur notre ville de Kinshasa, même à l'intérieur, nous avons toutes ces tôles en fibrociment qui, en Europe, tout le monde serait bien loin. Attention, hein, il y a de l'amiante. Nous avons des rapports sexuels, par exemple, non protégés, où vous avez le virus, le papillomavirus, qui va se propager par cette voie-là.
Il y a même un auditeur qui dit l'utilisation des aphrodisiaques, est-ce que ça peut aussi favoriser le cancer?
Je pense que non, en termes d'aphrodisiaques, je pense que ça, non. Mais j'ai dit d'abord, en termes du cancer du col, j'aurais pu m'étendre davantage, le temps va être tout petit, mais je voudrais, nous parlons ici principalement du cancer du col et du cancer du sein. Oui. Donc je voudrais dire, parce qu'il dit, mais ça vient d'où ce cancer du col? Ça vient d'où ce cancer du sein? Alors moi je voulais dire ceci, c'est que il y a donc plusieurs facteurs qui se mettent ensemble. Plusieurs facteurs ensemble. Le premier facteur le plus important dans le cancer du col, tel que si vous ne l'avez pas, il est très peu probable que vous ayez un cancer du col. Donc le premier facteur important, c'est une infection. Une infection à un microbe, un virus qu'on appelle le papillomavirus. Ce papillomavirus se transmet par rapport, disons, lors de rapports sexuels. Et c'est pour ça qu'on dit, pour éviter avoir plus de chances de ne pas avoir le cancer du col, c'est d'abord d'éviter de ne pas se faire infecter par le papillomavirus, qui se transmet par la voie de rapport sexuel. C'est propagé, c'est protégé, donc préservatif. Première chose, bien sûr, abstinence, mais abstinence, ça peut être aussi difficile, mais sinon alors fidélité, ou alors absolument, hein, il faut un préservatif. Parce que pour le cancer du col, sans le papillomavirus, vous êtes protégé à 90%. 90%, vous évitez, voilà, 90%.
Est-ce qu'il y a un traitement du cancer aujourd'hui, le cancer du
sein ou du col? Alors je voudrais dire, parce qu'on a dit comment éviter, j'ai dit déjà abstinence, ne pas avoir de rapport sexuel, fidélité, même homme, même femme, d'accord, et disons usage du préservatif, mais autre chose, vaccination. Maintenant, M. Célestin, il a bien remercié, félicité le ministre de la Santé, c'est bon, parce que avec la mise en place qui va venir bientôt de la politique de lutte contre le cancer, il va y avoir donc des vaccins.
Donc,
Les vaccins contre le cancer du col. Mais en fait,
ça existe déjà.
Ça existe sur le marché. Okay. C'est en fait qu'on se protège contre le papillomavirus qui va donner, disons, l'infection.
Alors, docteur Soulou, on ne peut pas tout épuiser aujourd'hui, faute de temps. Ah. On aura encore l'occasion, on va encore vous inviter prochainement pour revenir échanger. Oui, rapidement, terminer.
Merci beaucoup, ce que vous venez de dire là, noble. Ouais. Parce que je voulais préciser aux auditeurs que les auditeurs de Kinshasa, ça, par exemple, les bureaux de la LINAC et de la SICA se trouvent à la galerie Albert, 6e niveau. Ils peuvent venir pour prendre peut-être des dépliants, des informations,
Merci bien. Là-dessus. Docteur Soulou, vous allez revenir parce qu'on doit creuser ce sujet-là. Merci et à la prochaine.